Une arme du diable, le romantisme. Histoire, un danger sournois a apporté d'innombrables douleurs et malheurs aux gens et à la société. Ce danger saisit les gens de passion, les incline à vivre dans la faiblesse et l'entêtement. Parfois, sous l'emprise d'un fasciste, dans une mare chantée par un communiste. Et parfois, cela apparaît dans une lettre d'amour rédigée par une jeune fille pour le garçon qu'elle aime. Le nom de ce danger est le romantisme. Le romantisme est vu comme une caractéristique inoffensive par certaines personnes. Or, dans la réalité, c'est une particularité propre aux gens et aux sociétés non religieuses. C'est une arme du diable pour sortir l'humanité du sentier d'Allah. Au lieu de la raison, il fait vivre en fonction des sentiments. Ceux qui ne peuvent utiliser leur raison ne peuvent pas se rendre compte de la puissance d'Allah et ne peuvent pas réfléchir aux preuves de la création comme il se doit. Comme il est exposé dans la sourate Sad, Allah a fait descendre le Coran afin qu'il médite sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Le romantisme, qui éloigne l'homme de la raison, l'éloigne en même temps de la religion. Dans ce film, nous allons examiner comment le romantisme a ouvert la voie à de grandes gênes dans un passé proche et dans la vie de tous les jours. À la lumière du Coran, nous allons voir à quel point il va être facile de s'éloigner de ce danger. La naissance du romantisme nationaliste. Le romantisme est une erreur très profonde qui va des relations sentimentales entre les gens et s'étend jusqu'aux idéologies politiques. À la tête des idéologies politiques du romantisme vient le nationalisme romantique. Le nationalisme et le nationalisme romantique sont deux concepts différents qu'il ne faut pas mélanger. L'amour ressenti par une personne envers son propre peuple et pour le pays dans lequel il vit est le nationalisme. Cet amour est beau et légitime. Le nationalisme avec l'amour qui se change en passion devient alors illégitime. Il laisse la place au romantisme nationaliste. Le nationaliste romantique est raciste. Tout en aimant son peuple, il commence à ressentir de la haine vis-à-vis des autres peuples. Pour les intérêts de son peuple, il voudra occuper et piller les terres des autres peuples. Allah définit le nationalisme romantique dans le Coran comme la sauvegarde furieuse de la race. Nous sommes informés ainsi du fait que cette approche est une particularité des sociétés loin de la religion. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la sauvegarde furieuse de la race, la fureur de l'ignorance. Puis, Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Cette approche qu'Allah a définie dans le Coran il y a 1400 ans existe aujourd'hui aux quatre coins du monde. Les guerres de tribus en Afrique, les matchs de football qui tournent pratiquement à un conflit armé en Europe, les organisations qui orchestrent des actions sanglantes contre les Noirs, les Juifs et les Turcs, envers lesquels ils ont un grand mépris, sont seulement quelques-uns des effets du nationalisme romantique d'aujourd'hui. Comment est apparu le nationalisme romantique qui a entraîné les masses derrière lui et qui fut la raison de grandes catastrophes? La source de cette idéologie est l'Europe. Au Moyen Âge, les peuples qui vivaient sous l'administration de nombreux seigneurs ont créé, à partir du XVIIe siècle, des États-nations, en s'unissant sous une seule administration centrale. Beaucoup de pays européens sont devenus des États-nations, avec en tête l'Angleterre et la France. Désormais, à l'aube du XIXe siècle, la plupart des pays européens avaient assuré l'unité nationale. Seuls deux pays restaient en dehors de cette évolution: l'Allemagne et l'Italie. Dans les deux pays, le pouvoir des principautés ou des villes-États a duré de très longues années. C'est-à-dire que ces pays ont trop tardé pour assurer l'unité nationale. Cette situation provoqua la naissance d'un courant nationaliste radical. Et ainsi, le nationalisme a laissé sa place à des sentiments fanatiques. Le point extrême du nationalisme fanatique était le nazisme, qui a établi le régime le plus sanglant de l'histoire. Les avant-gardistes de l'idéologie nazie sont connus dans l'histoire comme les nationalistes romantiques. Les nationalistes romantiques croyaient que leur propre peuple était maître d'un esprit mystique et mystérieux. Et ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres peuples grâce à cet esprit. En d'autres mots, leur sentiment a pris le dessus sur leur raison. En 1933, Hitler et son état-major ont lancé une campagne de lavage de cerveau romantique vis-à-vis de la société allemande. purifiant la race allemande avec cette campagne, ils ont imposé l'idée de l'établissement de la royauté allemande qui allait gouverner tout le monde. Le peuple a écouté en pleurs et en transe les discours furieux et agressifs d'Hitler. En fait, Hitler, qui est un romantique aux pensées obsessionnelles, était d'après eux un leader possédant des forces métaphysiques. Vers la fin des années 1930, une grande majorité du peuple allemand croyait que ce rêve allait se réaliser. Avec cet objectif, il accepta la nécessité de bannir toutes les minorités du pays. Et l'humanité commença à vivre ses jours les plus sombres. Des millions de gens innocents ont rendu l'âme dans les effroyables camps de concentration nazis. Le côté sanguinaire du nationalisme romantique. Les années les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. La première et la deuxième guerre mondiale. La raison majeure de ces guerres, les nationalistes romantiques et leur idéologie. Le courant nationaliste romantique qui dominait en Allemagne a influencé avec le temps sur les sociétés anglaises, françaises et russes. Alors que les problèmes pouvaient se solutionner avec des accords, les gens vécurent la Première Guerre mondiale. Et dans cette guerre, exactement 9 millions de personnes perdirent la vie. Avec les hymnes et les poèmes enflammés, les romantiques ont imposé au peuple des sentiments comme l'esprit allemand, l'honneur anglais et le courage français. En s'enthousiasmant avec ces sentiments, les dirigeants ont pris des décisions insensées et ont édifié des plans sanglants à l'égard d'autres peuples. Or, ils s'étaient trompés. Leur propre population subissait la persécution. Dans la Deuxième Guerre mondiale aussi, il était question de la même approche sanguinaire. Et cette fois-ci, à cause des romantiques comme Hitler, Mussolini et Staline, 55 millions de personnes ont perdu la vie. côté sanguinaire du nationalisme romantique s'est également révélé en dehors des guerres mondiales. La raison de la plupart des guerres et des conflits entre les différents pays, les tribus, les organisations, est encore une fois le romantisme. Derrière le voile de cette idéologie qui entraîne les gens à la catastrophe, il y a une force qui prend pour ennemi toute l'humanité. C'est le diable qui va œuvrer jusqu'au jour de la résurrection pour égarer la descendance humaine. Allah nous informe ainsi sur le fait que le diable appelle les gens à la guerre, la confusion et la violence. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et Allah dit: Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Le fondement spirituel du nationalisme romantique. Les nationalistes romantiques ont puisé leurs forces dans des soi-disant théories scientifiques qui confortent les conflits et la guerre entre les peuples. La plus importante d'entre elles est la théorie de l'évolution de Darwin. Dans son livre intitulé « L'origine de l'homme », Darwin avait avancé que certaines races humaines étaient supérieures à d'autres. Il a défini les races blanches européennes comme les races supérieures, les noirs, les asiatiques et même les Turcs comme des races primitives à moitié singes. De surcroît, il a soutenu qu'il était nécessaire qu'une guerre et une lutte permanente aient lieu entre les races. Les nationalistes romantiques ont appuyé leur pensée raciste sur cette théorie. Darwin et son plus grand représentant en Allemagne, le biologiste Ernst Haeckel, sont devenus les bases du nationalisme romantique nazi. L'historien américain Daniel Gassman écrit ceci à ce sujet dans son livre intitulé « Les origines scientifiques du social-nationalisme ». Le racisme du social-darwinisme, qui s'est inspiré du racisme en Allemagne en réunissant les courants de l'impérialisme, du romantisme et de l'antisémitisme et du nationalisme sous une seule bannière, s'est donné les moyens de devenir une seule idéologie. La personne qui a ajouté le poids de la science aux idées complètement insensées et mystiques du nationalisme romantique allemand était le darwiniste le plus important d'Allemagne, Ernst Haeckel. L'idéologie qui a pris place après les guerres mondiales était encore la théorie du conflit de Darwin. Dans les lettres et journaux intimes des généraux qui ont embrasé la Première Guerre mondiale, les idées de Darwin y prenaient place comme les êtres vivants se développent par le conflit et les races s'élèvent par le combat. Par exemple, l'un des généraux de la Première Guerre mondiale, Friedrich von Bernhardi, exprimait ainsi le lien entre les guerres et les soi-disant lois conflictuelles dans la nature. La guerre est une nécessité biologique. Elle est autant nécessaire que le conflit des éléments dans la nature. D'un point de vue biologique, elle donne des résultats pertinents car ces résultats sont en rapport avec les caractéristiques de base des êtres. Dans ses annales d'après-guerre, le général en chef des armées d'Autriche-Hongrie, Franz Baron Konrad von Hutzendorf, écrit ceci. La grande catastrophe de la guerre mondiale s'est réalisée dans une parfaite harmonie avec le principe de la lutte pour la vie de l'homme. Cette guerre, qui se forme avec la force principale des vies des personnes et des états, est une règle de la nature, tout comme la charge d'un éclair qui doit se vider. Avec ce type de pensée sociale darwiniste, les généraux qui dirigeaient la Première Guerre mondiale ont envoyé en vain et sans sourciller des millions de soldats à la mort. En combinant le nationalisme romantique au darwinisme, une idéologie de guerre sanglante était née. Encore de nos jours, des slogans social-darwinistes sont utilisés par les néo-nazis et les organisations racistes comme le Ku Klux Klan. La théorie de Darwin continue d'être le plus grand support du nationalisme romantique et du racisme. Le romantisme communiste. Une des idéologies dans laquelle le romantisme entraîne les gens est le communisme. L'idéologie communiste a été formulée par Karl Marx et Friedrich Engels. Ces deux penseurs ont appliqué aux sciences sociales la philosophie matérialiste qu'ils ont aveuglément assimilée. Marx a avancé que la révolution des ouvriers et le commencement du règne socialiste qui s'ensuivrait étaient inévitables. D'après Marx, la révolution allait commencer à l'initiative des travailleurs. La révolution devait se produire dans des pays industrialisés comme l'Angleterre. Or, l'histoire a clairement montré qu'aucune de ces prévisions ne s'est réalisée. Aucune révolution ne s'est produite dans les pays industrialisés. Au contraire, les conditions sociales et économiques des ouvriers se sont améliorées. Toutes les prévisions de Marx sont tombées à l'eau. Mais les marxistes, avec un entêtement romantique, ont continué à défendre l'idéologie communiste. Marx avait avancé que la révolution allait se produire d'elle-même. Quant aux marxistes, ils ont tenté de réaliser ce rêve en formant des organisations et en faisant des opérations sanglantes. Après Marx, celui qui entretenait le rêve de la révolution et défendait ses idées était Lénine. À la différence de Marx, Lénine a avancé que la révolution allait se réaliser dans des pays non industrialisés comme la Russie. Selon Lénine, le communisme qui a été pratiqué avec succès en Russie devait se répandre dans le monde entier. Mais comme Marx, les rêves de Lénine sont tombés à l'eau. Ni le système qu'il a établi n'a eu de succès, ni le communisme ne s'est répandu dans le monde. Au contraire, l'Union soviétique et le Bloc de l'Est se sont effondrés après un long déclin. La Chine rouge a adopté l'économie de marché. Aujourd'hui, il est admis que le communisme est l'expérience du XXe siècle couronnée avec le moins de succès. Or, ce qui s'est effondré au XXe siècle, ce ne sont pas uniquement les systèmes établis par le marxisme. La philosophie matérialiste sur laquelle reposait le marxisme s'est également effondrée. Il s'est avéré que les affirmations matérialistes telles que l'univers existe depuis toujours ou qu'il n'a pas été créé sont fausses. La validité de la théorie de l'évolution de Darwin a pris fin, les preuves scientifiques de l'existence de l'esprit furent acquises. Seulement, malgré toutes ces réalités, les organisations communistes continuent encore leurs activités. La plus grande raison à cela est leur attachement romantique à leur idéologie. Les posters d'un prolétariat puissant qui brise ses chaînes. Des poings serrés, les hymnes révolutionnaires parlant de la guerre et de la mort. Quand on examine les régimes et l'organisation communiste, on voit que ce type d'éléments romantiques sont fréquemment utilisés. Les dirigeants communistes, qui ont anéanti des millions de vies, sont présentés comme des êtres surhumains. Le but étant de créer un attachement sentimental à l'égard des dirigeants. La notion de révolution fut idolâtrée. Pour un communiste, la révolution est la fin de tous les maux et le début de tous les bienfaits. Le beau pays, à l'intérieur des fleurs, le soleil rouge au loin, sont des présentations communistes romantiques fréquemment utilisées. Le romantisme s'est même reflété sur les habits portés par les communistes. Les jeunes militants s'identifient au chef de la guérilla Che Guevara avec des parkas de couleur kaki et des képis de commando. Les posters de Che se trouvent obligatoirement dans leur chambre. Ils puisent leur motivation dans les mélodies latines composées au nom du Che. En bref, le communisme est vécu comme une passion romantique, une nostalgie. Bien qu'il soit apparu clairement qu'il n'est pas de fondement sensé et scientifique, le fait que le communisme trouve encore des partisans est dû à cette illusion sentimentale. Le romantisme pratiqué au nom de la religion. Bien que le romantisme soit en fait une psychologie non religieuse, elle influence parfois par erreur les gens au nom de la religion. La différence la plus importante entre la vraie religion et la compréhension de la religion romantique est la notion de sincérité. Une œuvre sincère doit être accomplie uniquement pour gagner l'agrément d'Allah. Or, dans la compréhension de la religion romantique, il est beaucoup plus important de gagner l'agrément d'autrui ou d'obtenir une satisfaction sentimentale. Dans le Coran, Allah expose l'invalidité des actes d'adoration qui ne sont pas faits pour son agrément. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leurs salates, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Le romantisme enlève la sincérité. Il fait vivre la religion pour la satisfaction des besoins sentimentaux. Ainsi, les gens sont entraînés dans une compréhension tordue de la religion. Ils ne voient la religion que comme un moyen de réconfort psychologique. Allah a ordonné à l'homme d'utiliser sa raison et d'avoir la foi par le chemin de la raison. Or, dans la compréhension de la religion romantique, la raison n'est pas prise en compte. Et dans un hadith, notre prophète dit « Celui qui n'a pas de raison n'a pas de religion ». Dans la compréhension de nombreuses religions romantiques, le fait que l'homme s'inflige des souffrances est perçu comme un comportement louable. Il y a des chrétiens qui pensent se rapprocher du prophète Jésus en s'attachant à la croix. Dans le bouddhisme, avoir faim ou dormir dans des endroits inconfortables sont considérés comme des comportements sacrés. L'islam est loin de ces genres de compréhension romantique. Il est réaliste, car Allah est la vérité même. Pour que l'homme puisse comprendre cette réalité, il est impératif qu'il se libère du romantisme, qu'il soit réaliste. Avoir la foi comme le veut Allah n'est seulement possible qu'avec le rationalisme. le romantisme dans la vie quotidienne. Là où on voit le plus le romantisme est dans la vie quotidienne. Beaucoup de gens réagissent de manière sentimentale face aux expériences négatives. Par exemple, ils s'énervent vis-à-vis de l'injustice ou deviennent désespérés. Ils s'attristent lorsqu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Or, rien de cela ne solutionnera les problèmes. Quand les gens émotionnels marchent dans la rue et qu'ils voient quelqu'un qui dort par terre, ils sont peinés et ils ont pitié, mais ils passent à côté et s'en vont. La vraie attitude musulmane est d'aider cette personne. Ceci n'est pas de l'émotivité, c'est une caractéristique de prophète décrit par Allah dans le Coran, être réceptif et affectif. L'émotivité est tout le contraire de la moralité musulmane et il se montre sous divers aspects. Une de ses formes est la tristesse et le pessimisme. L'homme fut créé de manière à prendre plaisir des belles choses. Il a le désir de vivre dans la joie et la sérénité. Une personne qui croit en Allah et qui a assimilé la moralité du Coran est joyeuse et sereine en permanence. La tristesse et la mélancolie sont des sentiments qu'une personne croyante ne vivra jamais. Allah expose ceci dans le Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Quiconque suit ma voie ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Ceux qui vivent dans la mélancolie et la tristesse sont des gens émotionnels. Ceux-ci pensent que les hasards dirigent leur vie. Ils considèrent les expériences négatives comme de la malchance et de la mésaventure. Ils poursuivent leur existence avec l'inquiétude d'entendre une triste nouvelle, une mauvaise parole à chaque instant. Leur regard sur la vie est pessimiste. Quant aux croyants, ils savent que les événements qu'ils vivent arrivent par la volonté d'Allah. Par exemple, un croyant ne s'attriste pas quand il n'obtient pas un travail qu'il désirait beaucoup. Il accueille avec tranquillité et confiance le résultat voulu par Allah, car il sait que ce résultat est un bien pour lui. Assurément, Allah peut tester les gens avec la gêne et les difficultés. Seulement, le croyant ne s'abandonne pas à la mélancolie et au désespoir face à cette gêne. Il ne devient pas émotif. Il sait qu'Allah le teste. Il est conscient qu'en face de ces gênes, pleurer, s'attrister ou bien se lamenter n'est pas la solution. La solution, c'est de demander l'aide d'Allah, s'en remettre et ne faire confiance qu'à lui et aller au-devant des problèmes avec cette confiance. S'emporter facilement, ne pas maîtriser sa colère, faire appel à la violence. Toutes ces attitudes sont les caractéristiques des personnes qui se comportent avec les émotions au lieu de la raison. L'émotivité chez les femmes se présente plus sous la forme de mélancolie, de pessimisme et de pleurs. Chez les hommes, elle apparaît sous forme de colère, d'emportement et d'agressivité. Quand on regarde les journaux, on voit en général que les crimes sont perpétrés suite à une colère soudaine et dans un état émotionnel. Ceux qui commettent un crime en s'énervant soudainement à la fin d'une soirée joyeuse. Ceux qui tuent les membres de leur famille à cause de l'argent perdu à la bourse. Les compétitions sportives qui se transforment en champs de bataille à cause des supporters fanatiques. Tout ceci est vécu à cause des gens qui s'éloignent de la rationalité ordonnée dans le Coran et agissent suite à l'éclatement d'un sentiment soudain. L'émotion colérique est un grand danger. Les personnes dépourvues de raison et de volonté, loin de la moralité de la religion, ne peuvent contenir leurs émotions. À chaque provocation, le diable les entraîne où il veut. Or, Allah a ordonné de se préserver du diable. La solution, se libérer de l'émotivité qui est une arme du diable et vivre avec la rationalité enseignée par Allah dans le Coran. Un des sentiments romantiques chez l'être humain est le sentiment de gratitude. À chaque instant dans notre vie, nous nous trouvons en face de divers bienfaits. La plupart du temps, ces bienfaits paraissent nous parvenir pour diverses causes. Mais peu importe comment cela nous paraît, notre vrai devoir est de ressentir de la gratitude envers Allah, c'est-à-dire remercier. Car c'est uniquement Allah qui envoie tous ces bienfaits. Or, la situation est différente pour les personnes émotionnelles. Ils s'intéressent aux causes qui leur acheminent les bienfaits desquels ils jouissent. Ils espèrent des avantages des matières et des personnes dont Allah a fait des rouages, ils leur sont reconnaissants. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont en position d'écrasement vis-à-vis de ces personnes. Les poèmes mélancoliques, les promenades sous la pluie, rêvasser pendant des heures et plonger et disparaître dans les pensées. Tout ceci sont des approches propres aux personnes romantiques. La plupart du temps, ces gens ne peuvent pas établir de contact avec leur entourage. À cause des sentiments mélancoliques, ils font fréquemment des dépressions. Chez ces personnes, le sentiment de solitude, le stress, la tendance suicidaire est un état permanent. La consommation d'alcool et de cigarettes augmente. Pour être bref, les personnes renfermées subissent des dommages spirituels et corporels. Or, tout ceci est inutile. Allah a envoyé l'être humain sur terre pour une durée passagère dans le but de le tester. Une personne qui fait confiance à Allah et s'en remet à lui, aucun problème sur terre ne revêt d'importance. Il n'y a rien qui puisse l'attrister, lui faire de la peine. Ainsi, dans le Coran, Allah nous informe que les personnes qui croient et s'en remettent à lui ne vont nullement s'attrister. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Si malgré tout cela, une personne vit dans la mélancolie et le pessimisme, elle doit se réfugier dans la miséricorde infinie d'Allah et s'éloigner de ce malheur en vivant la moralité du Coran. la compréhension de l'amour romantique est la forme vécue la plus intense de l'émotivité. Ce sentiment est vécu dans un large domaine, allant des relations familiales jusqu'aux relations amicales. L'amour est un bienfait donné à l'homme par Allah. Mais ce sentiment, lorsqu'il n'est pas vécu conformément à l'islam, est interprété de manière incorrecte et il ramène avec lui l'idolâtrie. Ainsi, ce beau sentiment se change en amour romantique. L'amour romantique est passionné, il n'est pas rationnel. Allah expose comme suit le fait qu'un attachement passionné n'est pas profitable aux gens. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. La forme vécue la plus intense de la compréhension de l'amour romantique est la relation homme-femme. Dans ces relations, les personnes font de leur vie commune le plus grand objectif, cela devient une cible. Au lieu de plaire à Allah, ils essaient de se plaire les uns aux autres. Les sacrifices qu'ils ne font pas pour Allah et la religion, ils se les font pour eux. Ils disent même qu'ils s'adorent comme des idoles. Pour des raisons émotionnelles, ces personnes vivent de grands malheurs. Par exemple, les gens dont l'amour est obstrué pensent pouvoir se rejoindre en se suicidant. Et ils réalisent un acte de suicide, lequel acte est un péché qu'Allah a interdit, car le romantisme leur a empêché d'utiliser leur raison. On peut voir que l'amour romantique préféré à l'amour d'Allah, qui fait oublier Allah et qui entrave l'amour d'Allah, pousse l'individu à l'idolâtrie. Il y a une erreur répandue à ce sujet, qui est de soutenir la compréhension de l'amour romantique en la vantant, et de donner aux gens des suggestions qui vont les entraîner dans cette catastrophe dès leur enfance. Par exemple, de nos jours, le romantisme est imposé dans la plupart des films et des séries. Dans ces films, on voit fréquemment des comportements et des rhétoriques d'amour exagérées. L'amour romantique est souligné avec une approche surréaliste. La passion, qui est un sentiment dévastateur, est justifiée comme un critère de l'amour. Les disputes et les réconciliations constantes sont présentées comme un effet de la fidélité et de l'amour. Et la société est encouragée dans ses comportements. Quant à la compréhension de l'amour authentique, il faut savoir que toutes les personnes sont les humbles serviteurs d'Allah et qu'il faut les aimer suite à leur attachement à Allah. Une personne ayant cette compréhension aimera les gens selon leur moralité. Une personne digne d'être aimée est une personne présentant les caractéristiques de belle moralité qu'Allah a définies. Les dégâts physiques du romantisme. L'émotivité chez une personne ouvre la voie à de sérieux dégâts, tant sur le plan spirituel que physique. Les expériences spirituelles négatives se reflètent sur l'apparence extérieure. Les muscles du visage, les regards, les mimiques, les mouvements des mains et des bras, le ton de la voix sont des indices importants du caractère émotionnel. Chez les personnes émotionnelles, on voit fréquemment des maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques sont des troubles physiques qui ouvrent la voie à des problèmes psychologiques. Avec ces maladies, le système immunitaire s'écroule et la capacité du corps à résister diminue. Les cheveux tombent et blanchissent. La peau s'abîme. Les yeux deviennent ternes. Les tensions permanentes occasionnent des dégâts physiques permanents. De nos jours, on sait que les maladies du cœur, de l'estomac, la tension et même le cancer se développent en étant liées au stress et à la dépression. Dans le corps stressé d'une personne, les réactions biochimiques et la consommation d'énergie atteignent le niveau maximum. Dans un état de stress permanent, les fonctions du corps changent. Les déséquilibres commencent. L'une des origines de tous ces problèmes est le romantisme. Il est prouvé scientifiquement que par rapport à ces individus, les gens joyeux, calmes, sereins vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. La quiétude, le bonheur, la joie réelle et permanente ne peuvent seulement s'obtenir qu'en s'en remettant à Allah. Dans ce film, nous avons examiné les effets du romantisme dans différents domaines. Nous avons vu que le romantisme a été la cause des événements les plus sanglants de l'histoire et a entraîné les gens dans la douleur, les problèmes psychologiques. Nous avons mis en valeur les aspects et les dégâts du romantisme dans la vie de tous les jours. Tous ces exemples montrent clairement que le romantisme, qui est une des armes du diable, veut entraîner l'humanité à la destruction. Il éloigne l'homme de la voie de la raison. Par des sentiments passionnés, il l'entraîne dans des pensées et agissements non rationnels. La solution au romantisme est de comprendre la rationalité enseignée par la religion à l'homme et de vivre la moralité du Coran qui repose sur le rationalisme. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi que les croyants vivront loin de la gêne et de la tristesse. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés.